Voilà, après un mois de pause, on revient à cette lettre de Paul aux Romains que nous suivons depuis un an, qui est tellement riche. Et la partie que nous allons lire cette fois-ci, c'est le chapitre 8, du verset 9 à 16, mais en fait, je vais revenir un petit peu en arrière avant de le lire. Donc, on va suivre. Donc, on avait bien dit, et je rappelle, que la vie du chrétien commence par la justification. Là, tous les chapitres 1 à 7, et y compris le début du chapitre 8, qui dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que la vie chrétienne commence avec le pardon acquis par Jésus à la croix. C'est la grâce, c'est immérité. Ça, c'est vraiment le début de notre vie, quand le Seigneur nous accepte tel que nous sommes parce qu'il a payé le prix. Et la vie du chrétien consiste à porter les fruits de cette justification par une vie transformée. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu jusque-là, même si on est allé un petit peu plus loin. Et on peut donner un exemple qui me tient beaucoup à cœur. Hein. Donc, dans le cadre de l'actualité depuis le début de ce mois, c'est un exemple du comportement du chrétien dans Romains 12, 17 à 21. On anticipe sur la suite, mais c'est parce que la deuxième partie de Romains, comme dans beaucoup de lettres de Paul, trace un petit peu la mise en pratique de cette justification. Donc Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, par rapport à certaines actions de ces dernières semaines, voilà le comportement du chrétien qui est tout le contraire. Voilà ce que l'on veut pouvoir vivre et toute la question qui est posée par Romains chapitre 8, c'est oui, mais comment je vais le faire? Comment je vais arriver à faire cela? Et comment je veux le faire sans être en quelque sorte des donneurs de leçons aux autres? Faut le faire en toute humilité. Si on veut. Et la réponse que l'on a commencé à voir dans les versets 1 à 8 de Romains 8, donc c'était mi-décembre que j'en ai parlé, c'est que après avoir tracé les limites de la loi, et en disant qu'il faut que nous vivions une vie transformée, tout d'un coup, nous nous trouvons dans une nouvelle situation où on parle surtout de notre identité de chrétien. J'avais dit qu'au chapitre 8, il n'y a pas un seul commandement. Après, il y a, à partir du chapitre 12, un certain nombre de... Voilà, faites ceci, ne faites pas comme cela, pour nous aider à comprendre. Mais d'abord, il n'y a pas de commandement. Il y a tracé les contours de notre identité en tant que chrétien. Donc, du coup, il n'y a pas de consigne non plus, de petit ABC, comme ça vous serez parfait. Il n'y a pas d'enseignement, comme certains peuvent l'avoir, qu'il faut une deuxième expérience après sa conversion pour passer à l'étage supérieur. Il n'y a pas de petit truc, il n'y a pas tout ça. C'est simplement, nous sommes chrétiens, nous appartenons au Seigneur, donc voilà ce que nous sommes. Et c'est ça qui est surtout martelé dans ce chapitre 8. Et le test, en quelque sorte, de cette identité se trouve dans les versets 5 à 8 que nous avons déjà vus, une sorte de test. Est-ce que vous êtes hostile à Dieu et est-ce que vous aimez Dieu? Parce que le verset 5 dit « Ceux qui vivent selon la chair » ou la traduction du semeur, c'est « l'homme livré à lui-même » ou d'autres traductions, « notre nature ancienne ». Ceux qui vivent selon la chair portent leur affection aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit portent leur affection sur les choses de l'esprit. Et j'aime beaucoup le psaume 27 qui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face Seigneur. » Et celui qui est chrétien, on ne peut pas l'expliquer, mais d'un seul coup, notre désir, notre envie, c'est de plaire à Dieu. Même si on ne le fait pas comme autant que l'on aimerait, etc. On a en nous ce désir implanté par l'Esprit de vouloir vivre pour le Seigneur. C'est notre passion quelque part. C'est ça notre préoccupation, hein, pour utiliser un mot que l'on retrouve dans la traduction du second 21. C'est notre identité tout simplement en tant que chrétien. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va faire que quelques versets ce matin pour continuer à parler de cette identité. Alors, on continue. Donc, notre identité en tant que chrétien, j'ai mis trois bouts de phrases. S'affectionner aux choses de l'esprit, être préoccupé par ce qui est de l'esprit, et puis un verset tiré de Colossiens 3, chercher les choses d'en haut. C'est ça que l'on veut, c'est ça notre identité, c'est ça que l'on veut. Alors, Romains 8, 9 à 16, je vais le lire maintenant, avant d'aller plus loin. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Alors, Romains 8, verset 9. D'abord, il y a un changement au verset 9. Parce que Paul commence à s'adresser personnellement aux Romains. Il dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » À partir du verset 12, il change plutôt en « nous ». Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Et même plus loin, bon, on ne va pas jusque là, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent. » Alors que jusque-là, c'était les généralités. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. Maintenant, c'est vous. Vous. Paris Villiers. Vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Alors, si je suis chrétien, c'est que le Saint-Esprit habite en moi. Il faut du temps pour faut saisir que ça c'est une grande différence. Je suis né de nouveau ou né de l'Esprit. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Par deux fois, il le dit dans 1 Corinthiens. Ça veut dire que le Saint-Esprit en moi va collaborer, je veux dire, avec moi pour produire les les fruits de l'esprit, pour aimer le Seigneur, pour aimer les autres. Si je cherche deux autres traductions, parce que je trouve que cela nous aide à voir clair, j'ai commencé depuis un mois à pas mal utiliser la nouvelle version du second 21, pas la NBS, mais la nouvelle Bible seconde, mais la seconde 21. Et j'aime bien la traduction, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'esprit. Ce n'est pas notre ancienne nature qui nous anime, c'est l'esprit. Ou le semeur, avec sa traduction classique de la chair, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'esprit. Donc, trois petites remarques par rapport au fait que le Saint-Esprit est en moi, pour essayer de bien cerner cela. La première chose, c'est que, comme j'ai dit, chaque chrétien est la demeure du Saint-Esprit. J'ai cité 1 Corinthiens tout à l'heure, 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Cela ne se voit pas en tant que tel, ça devrait se voir avec notre façon d'agir, mais quand vous avez stationné la voiture ou si vous êtes venu avec des transports ce matin, les personnes autour de vous n'ont pas vu une différence physique parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais c'est quand même une réalité et c'est cette réalité-là qui change tout parce qu'on n'a pas simplement adopté une nouvelle façon de penser comme si on avait changé de philosophie ou d'opinion politique ou je ne sais pas quoi. La réconciliation avec Dieu a enlevé notre péché et du coup le Saint-Esprit, pas seulement l'Esprit, mais le Saint-Esprit peut être en nous parce que nos péchés sont pardonnés et Dieu nous voit comme ça. Le Saint-Esprit est en nous. Cela est aussi vrai parce que Jésus l'a promis. Donc Jean 14, et les versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous, il sera en vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne le voit pas en tant que tel. Mais notre nature a changé, et le Saint-Esprit est en nous. Ça doit se voir par les effets. Jésus l'a dit dans Jean 3. Le vent souffle, vous ne voyez pas le vent, mais vous voyez les effets du vent. Et vous voyez, on ne voit pas le vent en tant que tel. Donc ça, c'est la promesse de Jésus. Et je vais juste lire le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, je passe à la troisième chose. Parce que finalement, quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'est toute la divinité, toute la Trinité, on peut dire, en nous. Parce que Jésus a dit, je prierai vous, je vous donnerai un autre Consolateur, mais après, il dit au verset 18, je viendrai à vous. Et également, un petit peu plus loin, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, Père, Fils et Saint-Esprit. » Et là, on est dans une doctrine qui n'est pas souvent mentionnée quand on parle de la Trinité. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce mot, la péricorèse. Non. Voilà, ce matin, vous avez vu ce mot. Ça, c'est le mot grec. Dans la théologie en langue latine, on dit la circumincision, qui n'est pas la circoncision, hein, c'est, attention, ça se ressemble, mais c'est pas ça. C'est la circumincision. Ça veut dire que, d'après cet aspect de la Trinité, que un des membres de la Trinité représente tellement parfaitement les deux autres, que lorsque le Saint-Esprit vient, on peut dire que c'est Christ qui vient, ou c'est le Père qui vient, parce que chacun représente tellement parfaitement les autres, qu'on peut dans ce sens-là dire que les deux autres sont dans ce sens dans, ou entourés dans, donc le circum, dans l'autre membre de la Trinité. C'est pas, certes, il faut, la Trinité reste un petit peu mystérieuse, on ne peut pas tout comprendre, mais ça c'est la réalité. Et on le voit d'ailleurs, si on revient à Romains chapitre 8, parce que nous avons au verset 9, donc vous vivez selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et puis, on dit tout de suite à la fin de ce verset, l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il lui appartient bien. Et si Christ est en vous, on passe de l'esprit à Christ, et parfois on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention. Mais cette doctrine de la péricorèse, je trouve très intéressante et très importante, parce que ça veut dire que si le Saint-Esprit est en nous, c'est que dans ce sens, toute la divinité est en nous. Vous avez tout pleinement en Christ. Christ est en nous, c'est la promesse. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, mais dites plutôt, c'est ça la réalité. Dieu est en moi, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit que la totalité de la divinité est en nous. Sinon, on a du mal à comprendre ce texte romain où Paul passe allègrement de l'Esprit de Dieu à l'Esprit de Christ, et si Christ est en vous. Donc c'est parce que un des membres représente tellement parfaitement les deux autres qu'on peut dire que Dieu, la Trinité tout entière, est en nous. Ça c'est pour la théologie. Maintenant la pratique, parce qu'il faut aussi revenir à ma question, mais comment on va vivre de façon à plaire à Dieu? Et donc il y a deux conséquences du fait que le Saint-Esprit est en nous, Dieu est en nous. Le premier, c'est que Dieu nous donne la vie. Et la deuxième, que nous avons une obligation, une dette. Donc la première, c'est les versets 10 et 11. Le deuxième, c'est les versets 12 à 13. Donc, on va revenir maintenant, on va passer à la diapo suivante, pour revenir vers le fait que Dieu nous donne la vie. Et cela est important. Je vais relire les versets 9 et 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, quand on dit que le corps est mort, on pense plutôt, enfin, les théologiens optent pour dire que ça veut dire que le corps est mortel. C'est un petit peu comme dans Genèse, où Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez, mais le corps n'est pas mort ce jour-là. Donc il y a une différence entre l'esprit de quelqu'un qui est mort, donc Timothée nous a lu ce matin Éphésiens 2, qui dit vous étiez mort par vos péchés et par vos offenses, mais c'était spirituellement, alors que notre vie, notre corps est vivant, mais mortel. Donc, nous sommes tous mortels. Nous sommes appelés tous à mourir. Donc, c'est pour cela que certaines traductions d'ailleurs de la Bible disent carrément, pour le verset 11, le corps est mortel. Et d'ailleurs, il redit à la fin du verset 11, que Christ, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc je suis convaincu que le mot mort au verset 10, en ce qui concerne notre corps, veut dire que le corps est mortel. Mais notre esprit, on veut dire le vrai nous-mêmes, est vie à cause de la justice. J'ai dit de cette façon-là, notre corps est mortel, mais notre esprit est déjà vivant. Notre esprit est vivant parce que la personne qui était morte spirituellement revient à la vie, c'est aussi dans Éphésiens 2. Donc notre esprit, notre vrai nous-mêmes est vraiment vivant. Et je pense que c'est certainement le sens de Jésus dans Jean 10, verset 10, qui dit qu'il nous donne la vie abondante. Parce que la vie abondante, cela veut dire que non seulement par rapport à notre corps, mais aussi par rapport à notre esprit, que nous devenons vivants, ce qui fait que non seulement je peux apprécier par exemple les bonnes choses de la vie, mais puisque j'ai une relation avec Dieu, je peux aussi remercier Dieu pour ces choses. Ou pour le dire d'une façon très terre à terre, puisqu'on était à Madagascar, un non-chrétien peut manger les mangues de là-bas et dire « c'est super ». Et c'est vrai que les mangues de là-bas sont super. Hein? Donc, juste pour vous donner envie, un kilo de mangue, c'est 5 centimes. Hein? Donc, seulement il faut payer le billet d'avion pour y aller. Mais un kilo de mangue, c'est 5 centimes. Voilà. Un non-chrétien peut dire les mangues sont super. Le jus, le goût et tout ça. Mais il ne va pas pouvoir dire merci Seigneur pour ces mangues. Et de savoir que ça vient du Seigneur qui a prévu notre langue, notre palais et tout, pour apprécier le goût de notre nourriture et qui nous donne toujours de quoi se maintenir en vie, mais avec plaisir quand on mange. C'est le Seigneur qui a fait ça. Donc on est vraiment vivant parce que non seulement on vit des bonnes choses, mais on les vit doublement parce qu'on dit merci Seigneur pour ces bonnes choses. Et on le sait qu'on le vit avec le Seigneur. Donc voilà, on a la vie abondante. Et cela parce que, verset 10 toujours, à cause de la justice, que à mon avis le semeur a bien traduit en disant que parce que vous avez été déclarés justes. Donc on revient à la justification. Donc notre esprit est vivant à cause de la justification, à cause de la justice. Mais plus que cela, on a une espérance. Et quelle était cette espérance? Le verset 11 le dit, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Donc, ce même Esprit va aussi ressusciter nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire que, comme il est bien dit dans Corinthiens, nous avons aussi l'espérance de la résurrection. Et 1 Corinthiens 15, qui est le grand chapitre de la résurrection, le dit très bien. Je lis quelques versets. 1 Corinthiens 15, 20. « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Vous savez ce que ça veut dire, les prémices? Quand on faisait la moisson ou la récolte, les premiers fruits, c'était les prémices parce qu'on savait que tout le reste allait venir. Donc, on a Jésus qui est ressuscité en premier et nous qui allons ressusciter aussi. Et pour vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec un corps qui ne sera pas exactement comme le nôtre, mais en quelque sorte, qui sera passé dessus, on va dire. Verset 42, 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Donc notre corps se détruit peu à peu. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et si je saute jusqu'au verset 53, il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, dire que nous sommes vivants, je pense d'ailleurs que c'est si Timothée, tu peux encore appuyer, voilà. Jésus est le précurseur, ce qui fait que notre vie, ça se passe en deux temps. L'être humain normal est vivant dans son corps, mais mort spirituellement. Quand on se convertit, on devient vivant spirituellement, donc une relation avec Dieu. Mais ce n'est que après notre mort qu'on aura le corps spirituel qui ne sera plus mortel. Et on sera dans la nouvelle création de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont Ésaïe a parlé, dont Pierre parle au chapitre 3 de sa deuxième lettre. Donc on peut dire, je ne sais pas si je l'ai mis en bas, non, je n'ai pas mis. J'ai dit que nous sommes maintenant vraiment vivants, maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Donc Dieu nous donne la vie. Donc le chrétien est le plus vivant de tous les êtres humains, le plus humain donc de tous les êtres humains. C'est vraiment un privilège. Et à la fin de notre convention, le président du CNEF, Étienne Lermenot, a fait un appel passionné à bien vivre tout cela, à ne pas avoir peur et de vivre ce que nous sommes et de vivre notre identité de chrétien dans ce monde. Donc voilà, la première chose qui découle du fait que le Saint-Esprit est en nous, Dieu nous donne la vie. La deuxième chose, nous avons une obligation ou une dette, selon la traduction. Donc ça, c'est les versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc nous avons une dette, mais pas une dette envers la chair. Et j'insiste encore une fois, je suis sûr que j'ai déjà dit, que le corps n'égale pas la chair. La chair est un terme technique, on va dire dans la Bible, pour parler de l'être humain sans Dieu. Parce qu'il n'est que chair, il n'a pas d'esprit, en quelque sorte vivant. Donc c'est la chair. Donc c'est l'homme livré à lui-même, la nature humaine sans Christ, etc. Et notre obligation, c'est de vivre, non pas envers la chair, mais d'être vraiment vivant. J'ai cherché comment le dire. Hein. C'est notre identité. Notre obligation est d'être vraiment vivant et de vivre étant vraiment vivant. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'identité plus que simplement « fais ceci, fais pas ça ». C'est notre identité, notre obligation en quelque sorte, parce que nous sommes pas dans le cercle vicieux, mais dans le cercle vertueux qui dit « si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez ». Donc on est déjà vivant, mais on vivra encore plus pleinement selon notre identité. Donc on est appelé à faire mourir les actions du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire mourir les actions du corps? Ou le second 21 dit, les manières d'agir du corps. Le sommeur, les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. Dans le vocabulaire chrétien du passé, on avait un très beau mot, mais qui était mal compris. C'était la mortification. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, la mortification. Donc, certains ont pensé qu'il fallait se punir lui-même, comme un collègue au GBU qui le dit souvent, se le flageller chaque matin avec des orties fraîches. Bon, mais cette punition pour essayer de se punir parce qu'on n'agit pas bien, ça, ce n'est pas la mortification dans ce texte. Ou parfois, la mortification, on le confond avec l'ascétisme. On se prive de certaines choses. Donc là, tu n'as pas bien vécu Ce matin, David, tu n'auras pas de chocolat avec ton café. Je sais pas, on se prive de quelque chose par l'ascétisme, mais ce n'est pas la mortification non plus. La mortification, c'est de mourir à notre ancienne vie. Et Jésus le dit dans Marc 8, 34, je ne sais pas si j'ai dû mettre, voilà. Jésus en parle dans Marc 8, 34. J'ai un peu peur que je me suis trompé, parce qu'en fait c'est Matthieu 8, il me semble. Oh, c'est pas ça non plus. Si, si, si. Est-ce que c'est Marc 8? Ah si, si, c'est Marc 8, 34, oui, j'avais mal lu. Donc, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, ce n'est pas, comme certains disent, oh, « Ma croix, c'est ma belle-mère. » C'est pas ça. c'est vraiment mourir, en quelque sorte. Hein. Donc, je me souviens, Billy Graham, donc le grand évangéliste, disait toujours, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la chaise électrique et qu'il me suive. C'est Billy Graham qui le disait. La chaise électrique, ça veut dire que on meurt à son ancienne vie. Donc on l'a déjà vu dans Romains 6 par rapport au baptême, c'est le sens du baptême. Plonger comme dans le cercueil, en quelque sorte, dans la terre, est ressuscité à une vie nouvelle. Donc, c'est notre identité. Donc, Jésus part donc de mourir, et Paul aussi, dans Galates 5, 24, qui dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, mais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Donc ce verset qui dit, soyez ce que vous êtes. Nous sommes vivants à cause de l'esprit, donc marchons selon l'esprit. Alors, comment pratiquement on va faire pour cette action de faire mourir notre vie ancienne? J'ai dit, c'est notre identité, mais il faut mettre un petit peu de concret là-dedans. Donc, la première chose, je dirais, c'est, on va continuer, voilà, c'est de mettre à mort notre ancienne vie. Donc ça, c'est le côté un peu négatif, si on veut. C'est comme Jésus qui a dit dans Matthieu 5, que, bon, je vais lire Matthieu 5, 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc c'est une façon assez vigoureuse de dire que il faut faire mourir cette action et arrêter cette action en demandant au Seigneur de nous aider à l'arrêter, en quelque sorte, de ne plus agir de telle ou telle façon pour être ce que nous sommes. Et mais positivement, on arrache, en quelque sorte, avec du Seigneur, mais on nourrit nos pensées par ailleurs. Deux textes qui vont dans ce sens-là, Colossiens 3, versets 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, hein, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et dans Philippiens 4, et le verset 8. Que soit l'objet de vos pensées tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange. Donc de penser à ces choses-là, de tourner notre pensée à cela. C'est-à-dire, moi je veux déjà vivre avec le Seigneur, avec cette identité, ces valeurs sur la terre. Avec, comme je disais tout à l'heure, la liberté intérieure de le faire. Parce qu'on est convaincu que ce n'est pas la violence qui fait quelque chose, mais que l'on doit surmonter le mal par le bien. Revenons donc dans l'épître aux Romains, chapitre 8, pour conclure avec les versets 14 à 16. Voilà. Quelle est donc notre identité ? Puisqu'on a parlé d'identité, eh bien, nous l'avons dans ces versets, avec l'explication « car ». Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc fils de Dieu ou enfants de Dieu. C'est ça que nous sommes, c'est notre identité. Dès notre nouvelle naissance, on ne connaît peut-être pas grand-chose, mais on sait qu'on a un Père Céleste. On sait qu'on a un Père Céleste. Donc on peut dire « Abba ». C'est lorsque un enfant est né, on guette le moment où pour la première fois, il va prononcer un mot. Et je dirais 90 fois, peut-être plus sur 100, le premier mot c'est soit « maman » soit « papa ». Bon, on a eu une exception, mais bon. Un de nos enfants qui dit canard, mais bon. Mais bon. Mais normalement, c'est papa ou maman. Et donc, on est tout content. Parce que voilà, l'enfant reconnaît. Et nous, quand nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qu'on dit ? Abba ! Père ! Je sais que j'ai un Père Céleste. Maintenant, je ne suis plus seul. J'ai un Père Céleste. Donc, ça renforce ma conviction que Romains 8 est en train de nous dire, d'abord, vous avez une identité, vivons cette identité. Et cela est plus important qu'une liste d'interdits ou de consignes à mettre en pratique. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu.